que pour investir, le déchiffrage.
Léa Lejeune de Plancage, donc bonjour.
Bonjour.
Et Bastien Baron de Justae, merci d'être là en direct ce matin pour commenter, déchiffrer avec nous l'actualité du jour. Bah oui, on va parler des cryptos parce que là, il y a souveraineté, semi-conducteurs. Les cryptos, qu'est-ce que ça devient? Le Bitcoin a eu un gros rebond hier.
Oui. Après une baisse assez historique, hein, puisqu'on était à 53% de moins que la valeur maximum sur le Bitcoin depuis le début de la création.
Octobre, la valeur divisée par deux. Hein,
voilà, donc, c'est ça. Et ouais. On était sur 10% de moins dans le mois. Alors, petit rebond, mais le contexte n'est vraiment pas favorable. Et je crois qu'il faut quand même rappeler ces choses-là. Ouais. Bon, moi, j'ai tendance à penser que sur le Bitcoin, il y a les personnes qui sont des petits investisseurs et qui investissent là-dedans pour diversifier, aussi parce qu'ils croient à la technologie. Les personnes qui sont très opposées, il y en a beaucoup encore aujourd'hui dans les grandes banques, même si Crédit Agricole vient de raconter que ça y est, maintenant, ils vont permettre l'achat de Bitcoin sur leurs applications et sur leurs services en France.
Ça,
et c'est quand même assez rare d'avoir
ils l'ont annoncé
par communiqué de presse, tout à fait.
Dans ce contexte-là, oui.
Dans ce contexte qui est un peu étonnant, je pense qu'ils avaient préparé depuis très longtemps et vu le temps qu'il faut les autorisations et tout.
Ouais.
Mais voilà, moi je pense qu'il y a souvent les banques traditionnelles qui sont plutôt opposées, sauf Morgan Stanley et d'autres dont on a vu aux États-Unis qui avaient revirement. Et j'ai envie de dire un peu la communauté Bitcoin qui est très fanatique.
Ceux qui ont les mains dans le cambouis.
Alors il y a évidemment ceux qui ont été investisseurs de la première heure, il y a ceux qui minent. Même si aujourd'hui miner ça rapporte beaucoup moins qu'avant. Et moi j'ai tendance à dire que de temps en temps ils ont un côté un peu croyant. C'est-à-dire il y a presque une vision du monde, une croyance là-dedans. Et bon, ceux-là, ils sont quand même un peu déçus, ils continuent à s'accrocher, hein, puisque c'est des personnes qui croient à la montée du Bitcoin sur le long terme.
Logiquement, ce sera les derniers à lâcher, de toute
manière. Exactement. Mais ceux-là, il y a quelques années, disaient que le Bitcoin était une valeur de réserve, que ça pouvait être le second or. Et ça, par contre, c'est quasiment impossible à justifier aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est-à-dire, l'or a continué à être valeur de réserve quand il y a des grosses crises. D'ailleurs, là, ils viennent de rebaisser puisqu'on sort du gros de la crise en Iran. Et le Bitcoin suit plus du tout ces fluctuations, sérieux, pas sérieux. On reste dans un moment d'aversion au risque sur les marchés. De manière générale. Donc, le Bitcoin n'est pas forcément en roi. Et puis, je crois qu'il y a aussi cette inflation qui reste galopante avec un besoin de liquidité des gens. Et tous ceux qui ont vu le Bitcoin commencer à se casser la figure en octobre, il y en a une bonne partie qui ont retiré leur argent. Donc, il faut quand même regarder qu'est-ce que ça va donner sur la suite, faire attention à toutes les belles promesses qui avaient été faites. Aujourd'hui, on ne sait plus. Et moi, je dirais que vraiment, le Bitcoin, aujourd'hui, on peut considérer qu'il est corrélé à la santé des entreprises de tech américaines et des développeurs américains. Et c'est pour ça que même si en ce moment, les entreprises de tech américaines se portent encore globalement bien, même s'il y a eu des petites baisses et tout, les développeurs, ils sont licenciés en masse dans les grands groupes de la tech américaine. Et je crois que ça reste parmi les critères qui font baisser les cryptos et qu'on ne prenait pas en compte il y a quelques années.
Oui, d'autant plus que vous parliez d'une atmosphère quasi religieuse autour de certains... autour de certains tenants du Bitcoin. Mais finalement, on passe d'une religion à l'autre parce qu'on passe du Bitcoin à l'exploration vers Mars. Avec SpaceX ou à l'IA. L'IA, on ne sait toujours pas où ça va, cette affaire.
Oui.
Là, il y a un côté, il y a un côté peut-être irrationnel. Alors pas.
Alors oui, ça c'est les deux.
Pour le coup,
on est sur les tendances. Là, voilà, on est sur les tendances. Effectivement, dans les tendances, dans la tech, dans les personnes qui ont tendance à investir toujours en amont sur ce qui fait beaucoup parler. Effectivement, aujourd'hui, ça va dans SpaceX et dans l'IA. Je dirais que c'est un petit peu différent, même si les microprocesseurs dont on a besoin pour l'IA sont aussi ceux dont on a besoin pour miner des cryptos et traiter des cryptos. Et je crois que le dernier petit facteur que j'ai oublié sur les cryptos, c'est notamment la réglementation européenne, MiCA, qui vient de rendre beaucoup plus difficile d'obtenir certains agréments dont on a besoin pour être plateforme émettrice. Et donc, on a appris là, par message, hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, que Binance n'allait pas continuer ses services en France. Et donc, il y a aussi cette question de comment les plateformes de crypto-monnaie vont se positionner dans un marché dont on voit que déjà l'Europe est en train de restreindre les accès, de vouloir tout vérifier, tout suivre partout.
Voilà. Évidemment, tous les jours, 15h hein, sur BFM Business, BFM Crypto avec Sandra Gandoin. Et elle est totalement focus sur ces problématiques. Bastien Baron, du côté des clients privés, le Bitcoin, ça fait encore partie de l'horizon d'investissement où on s'est complètement, moi je veux du SpaceX, moi je veux de l'IA, comment faire, etc. Est-ce que ça apparaît encore dans le wording du moment, si je puis dire?
Ouais, ça apparaît encore, mais plutôt sur les horizons très long terme. Je pense que ce qui a été réalisé aussi sur depuis, on va dire 5 à 10 ans, c'est qu'on nous a dit qu'au départ, ça pouvait être corrélé à l'or. Mmh. Ouais. On s'est rendu compte que c'était pas le cas.
Non.
Après, on nous a dit, finalement, c'est, en fait, plutôt corrélé au Nasdaq. Finalement, c'est pas le cas. Mmh. Après, on nous a dit que c'était plutôt corrélé, en fait, au coût de l'argent. C'est-à-dire, quand il y avait pas mal de liquidités, le Bitcoin pouvait suivre la hausse et finalement, inversement, quand c'était pas le cas. Et finalement, en fait, il n'y a pas du tout de corrélation réelle entre ces différents, entre les classes d'actifs. Dire qu'ils sont assez standards aujourd'hui, et on cherche à essayer de dire le Bitcoin va fonctionner de cette façon-là, et finalement il n'y a pas grand-chose qui fonctionne vraiment, à part lorsqu'il y a un halving, et finalement là on voit qu'il y a une hausse qui dure quelques trimestres, après de fortes baisses, et finalement c'est toujours un petit peu ce qui se passe. Donc nous on est plutôt sur des horizons assez longs, et du coup se dire un petit peu comme l'or finalement là il y a eu effectivement un rallye qui a été très important pendant à peu près 18 mois, mais là il y a une baisse aujourd'hui, mais sur un horizon long on est toujours en gain, en fait, assez largement. Et normalement, ceux qui sont investis sur Bitcoin depuis 5 ans, par exemple, OK, il y a effectivement des montagnes russes, mais ils se portent toujours bien, etc.
Oui, je suis d'accord. Ouais, et ça vaut autant pour les petits investisseurs que pour les fameux croyants dont je parlais tout à l'heure. Ouais.
Ou les grosses baleines qui sont positionnées.
Voilà.
Non, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de fondamentaux. On peut dire ce qu'on veut, on le voit aujourd'hui. C'est pas du tout corrélé à l'or. On voit que le marché américain, le Nasdaq, se comporte très, très bien aussi.
Ouais. On a tout le temps cherché des corrélations pour essayer d'anticiper, en fait, la trajectoire du Bitcoin. Bah non, c'est une machine qui fonctionne.
Mais regardez quand même l'état des développeurs US. Regardez, c'est un critère qui me semble être le plus pertinent pour l'instant.
Bah d'autant plus qu'il y a une grosse interrogation.
Peut-être que je me trompe et dans quelques années, on dira la même chose ce critère-là aussi.
Non, mais Léa, d'autant plus qu'il y a vraiment un débat en ce moment chez ceux qui ont monté des racks entiers de cartes graphiques qui minent du Bitcoin, pour savoir à dire qu'est-ce qui est le plus rentable, miner du Bitcoin ou louer mes capacités aux hyperscalers l'heure de l'IA.
Aujourd'hui, c'est l'IA.
Voilà.
Présentement, tout de suite, c'est l'IA.
C'est clair. Dites, justement, j'y pense parce que ça va peut-être faire grimper les prix, ça aussi, l'inflation. L'inflation, là, on nous dit, ça y est, l'inflation descend en France, il n'y a plus d'inflation. Ouais. Bon, alors, on va pas faire le débat entre inflation réelle et ressentie inflation, mais vous avez des chiffres, 2-3 chiffres qui parlent, qui sont clairs, nets, précis.
Ah oui, ça m'a beaucoup amusé. Alors déjà, je replace le contexte. Hein. Ouais. L'inflation en juin, elle sera de 1,8. Le mois dernier, on était à 2,4. Ce qui était intéressant, c'est que ça faisait un certain nombre de mois où l'inflation était plutôt en baisse, puis là, c'était bien remonté. Ce qui avait poussé le ministre de l'économie et le gouverneur de la Banque de France de se dire, on va peut-être remonter le livret A à la mi-juillet, ce qui n'est pas obligatoire, hein, mais qui est un choix politique qu'ils peuvent faire. Mmh. Là, je ne sais pas s'ils vont continuer à le faire. Je pense que s'ils le font, ce sera dans un tout petit dé à coudre de quelques pourcentages, quelques virgules de pourcentage, pardon. Parce que vraiment, si on est 1,8, 2,4 du mois de l'un à l'autre, finalement, cette inflation, elle est à peu près stable, quoi. Ouais. Voilà. Mais concrètement, j'ai vu, et je la cite, hein, parce que c'était assez amusant, hier sur Internet, une influenceuse qui s'appelle La Petite Budgeteuse, qui a fait le calcul tout bête et méchant de regarder sur les 6 dernières années, qu'est-ce que ça ferait sur le salaire médian des Français si on mesurait l'inflation et l'impact réel sur un salaire. Donc, elle a pris le salaire médian de 2020, qui était plutôt autour de 2000 euros, un tout petit peu au-dessous, alors que maintenant, on est plutôt à 2200 sur le salaire médian. Et elle a fait donc ce calcul. Eh bien, une personne qui était payée 2000 euros en 2020 et qui n'a pas été augmentée du tout dans son entreprise depuis, c'est comme si elle avait perdu tous les mois 470 euros. Pour être en pouvoir d'achat constant, elle devrait être à 2470 euros pour conserver à peu près la valeur de l'achat. Et c'est pour ça aussi que pour beaucoup de Français, ça se ressent sur le panier de course, sur les dépenses au quotidien, où on a l'impression qu'avec aussi peu d'argent, on ne peut plus faire grand-chose.
La petite budgéteuse,
tout à fait.
Sitôt l'émission finie, je vais aller regarder un peu sa chronique, parce que c'est... Non, parce qu'on est là avec des grands économistes de renom qui sont là, qui sont aux rencontres d'Aix-en-Provence, etc., dont on va beaucoup parler.
On va nous aussi cet après-midi chez Plan Cash, moment incontournable.
C'est là qu'il faut être, parce que c'est là qu'il y a la nouvelle génération, et c'est là aussi de temps en temps où on met le nez là où il faut, et avec des chiffres précis comme ça, ça change un petit peu le paradigme. Bon, on a une inflation qui a tendance à ralentir. Qu'est-ce qu'on peut prévoir pour le second semestre, Bastien Baron?
Déjà, elle baisse effectivement beaucoup en France. un petit peu moins en Europe. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est l'euro. Donc, c'est la zone euro, en gros, qui drive les taux. Donc, malheureusement, là, on voit qu'il y a eu une hausse des taux qui a eu lieu au début du mois de juin. Il y a quand même encore des hausses de taux qui sont plutôt anticipées d'ici la fin de l'année. Il y a quand même une baisse. Hein, je regardais effectivement les chiffres en France, aucun sujet. Et en Europe, on était à 2,8% en juin versus 3,2% le mois dernier. Donc, on est en Europe, on est quand même à un point de plus que... Oui. qu'en France, et pour un objectif, je rappelle, qui est aux alentours de 2%, en tout cas. Donc, ce qui est prévu, c'est il y a toujours des effets de seuil, en fait. Il y a eu aussi une inflation qui est repartie assez largement à la hausse quand on a eu les sujets, justement, avec l'Iran, guerre en Iran, etc., avec la hausse du pétrole. On en parlait juste avant, effectivement, le pétrole là, qui reflue plutôt vers les $70 le baril. Donc, on va avoir, en fait, des choses qui vont se matérialiser dans les mois qui viennent également. Donc, on peut s'attendre, logiquement, s'il n'y a pas de nouvelles problématiques, avec un contexte géopolitique qui se maintient tel qu'il est aujourd'hui, plutôt à des baisses qui vont se maintenir. Et logiquement, on peut espérer qu'il n'y ait pas une boucle un petit peu d'inflation qui se crée. Ouais. Boucle d'inflation, c'est quoi ? C'est vous avez hausse des matières premières, hausse des produits, notamment alimentaires, etc. Et ensuite, hausse des salaires. Ouais. Et du coup, là, on crée une boucle. Et du coup, là, on a un enchaînement qui est un peu plus compliqué à gérer. Si finalement, ça reste assez ponctuel, on va dire un ou deux trimestres, finalement, et qu'on voit déjà les premiers ressentis qui baissent, ça pourrait finalement stopper les hausses de taux qui sont anticipées et les impacts qui sont assez forts derrière, parce que c'est quoi ? C'est les taux d'emprunt immobilier, donc potentiellement une relance aussi du marché immobilier. Je trouvais ça intéressant, effectivement, le calcul qui avait été fait, de dire qu'il y avait fallait gagner à peu près 20% de plus en réalité sur les 6 dernières années, donc depuis 2020, on va dire.
Ce qui est assez rare, il y a très peu d'entreprises qui font ce cadeau-là.
Donc finalement, nous, on regarde ça beaucoup sur l'immobilier, justement, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent la valeur factuelle de l'immobilier, mais vu que l'inflation a pris 20%, si votre immobilier est flat, en réalité, vous avez perdu à peu près 20% en fait sur votre immobilier. Donc, c'est ça qui est assez intéressant aussi.
Deux derniers sujets là pour terminer, mais qui sont vraiment au cœur de nos débats du moment, l'énergie et la souveraineté. On sort d'une période de canicule et on va sans doute y rentrer à nouveau la semaine prochaine. Enfin, à ce qui paraît, on va pas préjuger, on va laisser les météorologues faire de la météorologie. Maintenant, c'est vrai qu'on l'a dit cette semaine, investir dans la protection contre le réchauffement climatique et investir durablement pour essayer d'améliorer la situation, c'est plus compliqué que d'acheter 2-3 actions d'un fabricant d'éoliennes. C'est une philosophie. Et vous, Léa, vous avez un regard très particulier là-dessus aussi.
Oui, nous, on défend chez Plan Cash l'investissement responsable et notamment toujours garder en tête l'impact réel que ça va avoir. Ces dernières semaines, le débat, il a été, par exemple, sur investir dans sa propre clim ou investir dans des actions d'entreprises de climatisation et autres. Et on a bien vu que la vraie question, c'est plus uniquement investir dans la clim ou pas. Effectivement, on va avoir besoin de rajouter la climatisation dans au moins les espaces collectifs. Mais ça va être aussi de comment refroidir nos villes, sachant que la climatisation fait plutôt augmenter la température moyenne des villes. Et donc, ne pas oublier que l'écologie, c'est pas juste l'énergie ou l'énergie renouvelable, mais c'est aussi les terrains, les forêts, les espaces verts, etc.
Oui, c'est global.
Et donc, je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête quand on pense réchauffement climatique. C'est pas simplement aller choper une opportunité d'investir dans la climatisation, mais se dire aussi ce dans quoi on investit autour. Et puis, nous, on a analysé chez Plan Cash, d'ailleurs, l'enquête est en ligne, l'investissement dans le photovoltaïque, puisqu'on a essayé de prendre le truc à l'inverse en se disant, en fait, s'il y a réchauffement climatique général, les canicules, peut-être que ça va être plus intéressant d'investir dans le photovoltaïque que ces dernières années. Alors déjà, il y a dans les actions ou dans les ETF de photovoltaïque, notamment les iShares Clean Energy Global, qui sont
ça,
les
c'est
ETF.
C'est le grand classique de BlackRock.
Exactement, ouais. Et qui, en fait, c'est intéressant parce que finalement, les énergies renouvelables, c'est qu'une partie de la plupart des ETF d'investissement durable. Oui. Celui-ci est vraiment basé sur les énergies renouvelables. Il y en a un autre, attendez, je le cite, Solal Clean Energy, qui va être beaucoup plus sur le solaire. Oui, il faut faire attention parce que plus on est restreint dans ce dans quoi on investit, plus on s'expose à un secteur qui peut être fragilisé. On l'a vu sur le
temps. Pour des raisons économiques et pour des raisons politiques, évidemment.
parce que si, alors, économique, il y a effectivement toutes les questions liées aux terres rares, dont on a besoin aussi pour fabriquer l'IA, etc., mais dont on a besoin aussi pour les panneaux voltaïques. Ouais. Et puis, on a aussi la question politique chez Trump, où il y avait eu effectivement une baisse de la valeur de ces ETF dont je parlais tout à l'heure, au moment où Trump avait décidé de supprimer toutes les aides sur le photovoltaïque aux États-Unis.
Même s'il a toujours été un petit peu plus favorable au photovoltaïque par rapport aux éoliennes.
Aux éoliennes, oui, mais vraiment, là, pour le coup, il n'y a plus aucune aide publique américaine. Voilà. Il a vraiment dévalorisé dans un certain nombre de fonds et même incité certains États à favoriser des fonds qui n'allaient pas vers les énergies renouvelables. Hein. C'est drill, baby drill. C'est toujours la même idée chez Trump. Bon, mais ce que je voulais juste dire, c'est que sur le temps long, quand on regarde vraiment sur 5, 6, 10 ans, là, on voit que ça continue à évoluer positivement et c'est comme ça qu'il faut regarder. C'est vrai qu'à 3 ou 5 ans, on peut avoir l'impression qu'il y a une chute, mais ça reste des tendances de fond.
Bastien Baron, alors je suis désolé, il nous reste une minute, mais pour parler d'un sujet de souveraineté, on voit que du côté de Fable 5 et Mythos 5, ça y est, c'est le problème est réglé, et on va pouvoir y avoir droit, nous, Européens, mais c'est une sacrée leçon à retenir. Et on voit que maintenant, même si c'est des petits acteurs, les gouvernements, les pouvoirs publics et les entreprises sont prêts à investir sur l'IA souveraine française. Européenne.
Ouais, complètement. Je pense que c'est une bonne transition parce que sur le photovoltaïque aujourd'hui, qui c'est qui drive le marché, c'est les Chinois.
Bah oui.
En gros, qui inondent le marché. Donc là, on peut se poser la question aussi, comment ça va se passer dans un second temps. Ce serait bien qu'il y ait peut-être un acteur européen qui puisse se créer, en tout cas se développer, avoir des aides.
Il y a failli en avoir un.
Oui.
Ouais. Et puis.
Non, mais là, quand on parle justement, je suis assez d'accord. On parlait de tous les équipements, notamment de clim, etc., pour tout ce qui est collectif. Donc ça a beaucoup été du public, donc ça veut dire que le public, plutôt qu'aller envoyer son argent, je pense, auprès des acteurs chinois, il y a peut-être possibilité de créer quelque chose en Europe.
Différemment, ouais.
Et c'est un peu le même sujet sur l'IA. Je pense que l'IA, là, ce qui était assez intéressant, le contexte très rapidement, c'était il y a 3 semaines, Anthropic lance Fable 5 notamment, et Mythos également. Et 3 jours après, il y a l'administration Washington, en gros, qui dit OK, vous continuez à le lancer, par contre, les ressortissants étrangers, on ne veut pas qu'ils y aient accès. Anthropic, à ce moment-là, n'a pas la main pour dire, on ne sait pas exactement qui est ressortissant étranger finalement, donc on stoppe tout. Et là, on voit qu'il y a OpenAI qui lance son nouveau ChatGPT 5.6, même sujet. Là, il y a l'administration américaine qui dit OK, mais ça va être trié sur le volet et ça va être uniquement avec des acteurs qu'on a choisis, notamment aux US. Donc on se rend compte que c'est plus juste un sujet d'IA, etc. C'est devenu des vrais sujets, en fait, économiques, de souveraineté. Et autres. Et donc, il y a vraiment des conflits qui vont intervenir, je pense, dans le futur, que ce soit sur la data ou sur les modèles. Et l'IA, c'est de la data et des modèles. Donc, voilà un peu la suite. Donc, je pense qu'il y a des vrais besoins de
développer une Mistral.
Mistral, je pense qu'il faut mettre en avant.
Léa Lejeune de Plancage, Bastien Baron de Justaï, merci infiniment d'avoir déchiffré cette actualité encore une fois passionnante aujourd'hui.